Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio Audible. Polar, roman ou science-fiction, téléchargez et écoutez vos livres audio sur l'appareil de votre choix. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand nous parle d'un chef-d'œuvre de la peinture cet après-midi. Et pourtant, ce n'est pas Serge Lega qui se trouve à ses côtés. Voilà une émission qui s'ouvre sur un mystère. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. À mes côtés, cet après-midi, l'un des meilleurs spécialistes du Premier Empire, puisqu'il s'agit de Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon. En effet, à propos de mystère, c'est l'énigme du tableau du sacre de l'empereur que nous allons essayer de résoudre ensemble.
Et tout à l'heure, Franck, à la fin de l'émission, une autre énigme pour vous. Vous répondrez à la question de Samia sur l'origine du mot péplum.
L'origine amusante, vous allez le voir. Pour le moment, nous rejoignons un peintre pour qui le péplum n'avait aucun secret. J'ai nommé Monsieur David.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous sommes à Paris, dans le Quartier Latin, à la fin de la matinée du lundi 4 janvier 1808. Plusieurs voitures arrivent dans un grand fracas, elles sont accompagnées d'un gros détachement de gardes du corps et elles viennent se ranger sur la place de la Sorbonne, sous les grandes verrières qui illuminent l'atelier où le premier peintre de l'empereur, le célèbre Jacques-Louis David, vient de réaliser une toile immense. Immense par ses dimensions, nous y reviendrons tout à l'heure, immense aussi par son importance dans cette longue série de tableaux qui, de siècle en siècle, illustrent, fixent, qui immortalisent l'histoire de France. L'empereur Napoléon et l'impératrice Joséphine ne se font pas prier pour sauter de la voiture et s'engouffrer tout excités dans la chapelle de Cluny. C'est le nom de cette église, de cette chapelle désaffectée où l'on a installé pour David un atelier. L'histoire de cet atelier nous est racontée par Alain Pouchetou. Il nous explique qu'il fallait un espace de bonne taille pour l'exécution d'une si grande œuvre. Le grand nombre d'édifices religieux désormais désaffectés, écrit-il, il y en avait comme ça beaucoup à Paris, permettait d'envisager l'emploi d'un de ces lieux de culte. L'arrêté consulaire du 21 août 1801 avait décidé par ailleurs l'expulsion de tous les particuliers du palais du Louvre et notamment des divers artistes qui occupaient ateliers et appartements. Il faut savoir que depuis la Révolution, David faisait partie de ces... D'ailleurs, je dis depuis la Révolution, depuis avant la Révolution, il faisait partie des artistes qui occupaient justement, même non pas un, mais plusieurs des ateliers du palais du Louvre, il y avait installé ses élèves et il avait dû finir par quitter appartement et atelier au printemps 1805. Il avait installé en attendant ses élèves dans l'ancien collège du Plessis, rue Saint-Jacques. Quant à l'atelier où il devait peindre le couronnement, eh bien, c'était celui de la chapelle de Cluny, place de la Sorbonne, un atelier qui occupait une partie du flanc sud de la place. Très intéressant ça, parce que ça veut dire que les grandes verrières qui donnent sur la place de la Sorbonne à l'époque sont les verrières nord. Des baies tournées vers le nord, c'est exactement ce qu'il faut lorsqu'on fait de la peinture pour ne pas avoir la lumière directe du soleil, bien entendu. Vous savez que d'ailleurs, regardez ça, quand vous vous promenez non seulement à Paris, mais dans toutes les villes où vous avez des ateliers d'artistes, vous verrez que les grandes baies des ateliers sont toujours orientées au nord. Le journal de Paris écrit le 23 Germinal en 13, c'est-à-dire on va traduire ça dans notre bon vieux calendrier, c'est plus simple, 13 avril 1805, je cite... On fait de grands travaux à l'église de Cluny, place de la Sorbonne. Elle est destinée à servir d'atelier à Monsieur David, premier peintre de l'empereur. C'est là qu'il doit exécuter les tableaux qui représentent les cérémonies du sacre et du couronnement. Des salles du collège du Plessis lui sont également accordées pour ses élèves. On travaille aussi dans la maison de Sorbonne à pratiquer un plus grand nombre d'ateliers pour les peintres et sculpteurs que les travaux du Louvre ont forcé d'abandonner les logements qu'ils avaient obtenus de la munificence du gouvernement. J'aime bien le style de la presse de l'époque, une presse dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle était comme l'a souvent été du reste. reste aux ordres du pouvoir en place. Pourquoi Napoléon a-t-il choisi David? Eh bien parce que c'est le grand peintre du moment, c'est le talent qui est en pleine efflorescence. Et on va voir avec Thierry Lenz dans un instant que David avait un certain nombre de concurrents qui eux aussi bénéficiaient des commandes officielles du régime. David était né en 1748, si je ne m'abuse, oui c'est ça. Il était le fils d'un mercier parisien, Maurice David, mais il se trouve que très tôt, à l'âge de 8 ans et demi, 9 ans, il est devenu orphelin de père. Il a été élevé par un oncle qui était lui-même un esthète, un homme de culture, qui a essayé de faire de lui un architecte. Il y aura quelque chose de l'architecte dans les œuvres de David d'ailleurs, il en reste quelque chose, mais évidemment sa vocation à lui, ça n'était pas l'architecture, c'était la peinture. Et il faut quand même reconnaître que son tuteur, que cet oncle, a eu l'intelligence de lui laisser la bride sur le cou, si je puis dire, et de l'encourager dans cette vocation pour la peinture. Il va concourir pour le prix de Rome, c'était la seule façon de s'en sortir à l'époque, il fallait entrer à l'Académie royale, hein. On est en 1771, il va lui falloir un peu de temps quand même, c'est seulement à la quatrième tentative, en 74, que David va remporter le premier prix avec Erasistrate découvrant la cause de la maladie d'Antiochus. On est exactement dans ce genre de grand sujet romain, de grand sujet antique qui peuple l'art de l'époque. N'oubliez pas que dans ces années 1770, on est en train de se convertir au néoclassicisme et l'on va chercher dans l'Antiquité, essentiellement dans l'Antiquité romaine, les grands sujets à peindre. On est à une époque où il y a une hiérarchie des genres. Vous savez, il faut peindre des grands sujets historiques notamment. C'est à Rome que part donc David. Il va y passer 5 années. Vous imaginez qu'il rentrera de son séjour romain pétri de la rigueur de l'antique. Et lorsqu'il est de nouveau en France en 1780, alors il va peindre la douleur et les regrets d'Andromaque pour le qui pleure sur le corps d'Hector. Il va ouvrir un atelier qui est un véritable atelier à la romaine où il va former de jeunes artistes. On pense à Girodet, bien entendu, il faudrait citer le nom d'Ingres, même si Ingres, disons-le, viendra un peu plus tard.
La marche du sacre de Napoléon sur Europe 1, une musique composée par Jean-François Le Sueur. Restez avec nous car aujourd'hui nous passons, grâce à Franck Ferrand, à la loupe ce tableau, le sacre de Napoléon signé David.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi sur Europe 1, c'est un tableau qui est à l'honneur, le sacre de Napoléon, dont le titre est complet et sacre de l'empereur Napoléon Ier et couronnement de l'impératrice Joséphine dans la cathédrale Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804. Un tableau signé David,
eh oui,
que l'on apprend à connaître grâce à
c'est
vous, Franck.
C'est quand même étrange que David, cet homme pétri des idéaux républicains de la Révolution et qui avait connu une première heure de gloire au moment même de la Terreur. N'oubliez pas qu'il était proche de Robespierre, ce David. C'est curieux que ce soit lui qui immortalise le couronnement d'un empereur, vous l'avouerez. Il avait été député à la Convention, membre du comité de sûreté générale. C'est lui qui organisait les grandes fêtes de la Révolution, vous savez, les espèces de grandes cérémonies. Et alors, si vous prenez les grands tableaux de l'époque révolutionnaire, c'est Marat assassiné, évidemment, un tableau très célèbre, c'est la mort du jeune Barat, c'est le serment du jeu de paume. Alors ça, c'est une toile assez contemporaine et qui ne sera jamais achevée, du reste. Bref, il est vrai que David continue à faire des portraits, il est vrai qu'il continue à s'intéresser aux sujets antiques, mais il est d'abord et peut-être avant tout celui qui immortalise les grandes scènes de la Révolution, au moins jusqu'à Thermidor, jusqu'à la chute de Robespierre, parce qu'alors là, ça commence à aller mal pour lui. Il va passer 7 mois en prison dans ce palais du Luxembourg qui à l'époque a été transformé en prison. Il a eu le temps de méditer la grande toile qu'il concevrait en sortant de prison, c'est-à-dire les Sabines. Le vrai titre, c'est les Sabines à arrêtant le combat entre les Romains et les Sabins, toile de 1799, qui a fait scandale à l'époque parce que les personnages y sont présentés nus et que la nudité des héros est même au cœur, on peut dire, de la composition, qu'elle anime littéralement. À l'époque, on n'était pas du tout habitué à ça, mais encore une fois, David est l'enfant de Grèce, de la Grèce et de Rome. Il est l'enfant de l'Antiquité. Il veut qu'on remette à l'honneur cette tradition du nu qui était celle de l'Antique, bien entendu. Alors, assez vite, je vous dis 99, vous voyez que Napoléon fait son coup d'État à la fin de l'année, hein, le 18 Brumaire. Il le remarque, quand je dis Napoléon, je devrais encore dire Bonaparte d'ailleurs. Il va vouloir l'honorer, se le concilier, disons-le. Et c'est comme ça que va naître assez vite l'idée de cette grande commande pour les cérémonies qui vont transformer le premier consul en empereur des Français. Quatre tableaux d'un format colossal, nous dit Sylvain Lavessière, qui a consacré un ouvrage à cette affaire. Quatre tableaux ordonnés par le fondateur d'une dynastie nouvelle, c'est la commande d'une vie. David l'a reçue comme la reconnaissance naturelle de sa qualité de peintre d'histoire le plus illustre de France et même d'Europe depuis 20 ans. Les quatre tableaux du couronnement devaient avoir 19 pieds sur 30, soit 4 fois la surface des Horaces. C'était quelque chose d'absolument gigantesque, bien entendu. Ce sont quasiment des panoramas grandeur nature qui ont été commandés à David. Un tour de force, nous dit Sylvain Lavessière. David, qui aura 60 ans à l'achèvement du sacre, relève le défi. Défi multiples qui ne se résument pas au format. Il s'agit de scènes regroupant un grand nombre de personnages et en costumes contemporains. Bah oui, il s'agit de pas les représenter tout nus cette fois, les personnes qui participent au sacre de l'empereur. La seule expérience de David en ce domaine, le serment du jeu de paume, était demeuré à l'état d'immense ébauche dessinée avec quelques têtes peintes. Il faut aller voir d'ailleurs dans la salle même du jeu de paume à Versailles, hein, dans le quartier Saint-Louis de Versailles. Il faut aller voir cette toile inachevée de David. Toute l'entreprise des tableaux du couronnement sera empoisonnée de 1804 à 1810, nous dit Lavessière, par la question de leur prix. Napoléon aurait accepté verbalement de payer chacun des quatre tableaux au prix de 100 000 francs, entre parenthèses, c'est complètement invraisemblable, hein. Ce sont des sommes vertigineuses. Finalement, la toile achevée sera payée à David 65 000 francs. Alors, vous l'avez dit, Anissa, le tableau représente officiellement le sacre de Napoléon. Mais si vous regardez le tableau, ça paraît une évidence, il suffit de jeter un premier regard à la toile, vous verrez que ce que l'on voit, c'est le couronnement de l'impératrice Joséphine, qui devient donc impératrice de Joséphine de Beauharnais, qui devient impératrice des Français. Au départ, David avait bien l'intention de représenter le couronnement. Alors vous savez qu'au cours du sacre, il y a eu une chose un peu étonnante, c'est que Napoléon, prenant modèle sur un certain nombre des grands empereurs du passé, s'était couronné lui-même. C'est vrai qu'il avait fait venir le pape Pie VII, mais au lieu de laisser au Saint-Père le soin de le coiffer de la couronne, il s'était lui-même saisi de la couronne et il se l'était placé sur la tête. On aurait pu imaginer un Napoléon, et c'est ce qu'avait fait David dans sa première esquisse, tenant son épée de la main droite dans une posture toute militaire, venant de se couronner, etc. Et on dit que c'est le peintre Gérard qui, à l'été 1806, en août 1806, aurait conseillé à David de changer le couronnement de Napoléon par celui de Joséphine. Et c'était une idée de génie, entre nous soit dit. Alors, la légende veut que ce soit l'impératrice elle-même qui l'ait demandé, qui ait fait même quasiment une comédie, un caprice comme elle en était coutumière, il faut bien le dire, mais que c'est elle qui aurait demandé à être représentée au centre de la toile. C'est très très peu probable. Ce qui est certain, c'est que c'est une très belle idée d'artiste et que le conseil de Gérard à David a été un conseil magnifique parce qu'il donne à la toile toute sa noblesse et j'ai envie de dire, il lui donne aussi une douceur, une féminité qui n'aurait sûrement pas animé la toile si l'on y avait vu Napoléon dans la posture toute militaire du héros venant de se couronner lui-même. Donc, il y a dans cette sorte de synthèse et dans ce couronnement de l'impératrice une grande idée artistique qui va devenir aussi, et nous le voyons dans un instant, une idée politique.
Le Sacre de Napoléon, signé David. C'est le tableau qui nous intéresse cet après-midi sur Europe 1. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, poser vos questions à Franck Ferrand et son invité jusqu'à 15h. Ça se passe sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. La suite de l'histoire de ce tableau, c'est dans quelques minutes sur Europe 1.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Le Sacre de Napoléon, c'est un tableau qui reflète l'histoire, mais c'est un tableau qui a beaucoup d'histoire et qui est signé David, dont vous nous parlez, Franck Ferrand, cet après-midi.
Et vous qui entendez ce qui se passe pendant pendant les publicités, Anissa, ça promet.
Hein, il faut rester.
Oui, à l'instant même, Thierry Lenz était en train de nous raconter des choses assez extraordinaires sur ce tableau. On va y venir dans un instant. Alors moi, je vais déjà vous en faire la description. Vous le connaissez, hein, ce tableau tout en longueur qui est quasiment grandeur nature. Hein, il faut dire les choses. Avec tous ces personnages, bien entendu, 191 personnages. Alors de gauche à droite, on reconnaît notamment au milieu de tous, on reconnaît Joseph Bonaparte, évidemment, Louis Bonaparte, grand connétable, qui est le mari d'Hortense, hein, donc qui sera le père du futur Napoléon III. Elle-même, Hortense, étant la fille de Joséphine, après tout. Hein. Et puis les sœurs de l'empereur, Caroline, l'épouse de Joachim Murat, Pauline, Elisa, bien entendu, qui refuse de porter la traîne de l'impératrice. Il y a Hortense de Beauharnais et son fils, le petit Napoléon Charles, on y viendra tout à l'heure. Et puis Julie, l'épouse de Joseph. Au premier plan, à droite, Lebrun, l'architrésorier, qui tient le sceptre symbolique. Il y a Cambacérès, archichancelier, qui porte la main de justice. Le maréchal Berthier, qui lui porte le globe impérial. Talleyrand, grand chambellan de l'Empire, vêtu de son manteau rouge. Il y a aussi le maréchal Bernadotte, Eugène de Beauharnais. Eugène, c'est aussi le fils de Joséphine. Donc vous voyez à quel point, entre parenthèses, Joséphine est véritablement non seulement au centre de la composition, mais au centre de ce qui anime le tableau lui-même. Et puis tout le reste de l'assemblée, les gens d'église, à commander par le pape Pie VII, bien entendu, qui est la figure la plus lumineuse du tableau. Et il est en train de faire une bénédiction derrière Napoléon. C'est intéressant de voir que, pour autant qu'on puisse en juger d'ailleurs, parce que la lumière est relativement diffuse sur cette toile, il semblerait que la figure qui accroche le plus la lumière, ça n'est pas Napoléon en train de couronner son épouse, c'est le pape Pie VII. N'oubliez pas que c'est David qui tient le pinceau, tout ça est quand même une sorte de bouillon, c'est un nœud de paradoxe. Alors il y a un certain nombre de personnages qui n'étaient pas présents au moment du sacre le 2 décembre 1804 et qui se retrouvent sur la toile. C'est le cas du cardinal Caprara, placé à la droite du pape dans le tableau. Idem pour l'ambassadeur de l'Empire ottoman, qui n'avait pas la possibilité d'entrer dans un lieu de culte catholique, mais qu'on a figuré néanmoins au second plan du tableau, avec tous les diplomates, tout le corps diplomatique. Il faut imaginer les gens qui venaient voir la toile au moment de sa toute première exposition pour essayer de s'y retrouver, bien entendu, de se voir sur le tableau. Et puis, et ça on le sait bien entendu, Laetitia. Vous savez que la mère de Napoléon, qui était à Rome auprès de Lucien au moment du sacre, la mère de Napoléon a été rajoutée complètement au centre de la composition, bien en vue dans sa tribune, dans cette tribune où David s'est représenté au milieu des membres de sa propre famille et du peintre vient son maître. Alors, ça ce sont les choses qu'on connaît généralement. Dans un instant, avec Thierry Lenz, nous allons venir sur tout ce qu'on ne connaît pas. Et je vous assure qu'il y en a des surprises sur ce tableau du sacre. Qu'a pensé, alors dans un premier temps, c'est l'impératrice hein, qui est venue visiter le tableau. Il a été considéré comme achevé le 18 novembre 1807, ce tableau. Et dès le 28, l'impératrice est venue, avec toute une partie de la cour, voir le tableau dans la chapelle. Je pense que l'empereur l'avait envoyé en quelque sorte en estafette, si je puis dire. Il faut vous dire que lui-même n'était pas à Paris à ce moment-là, donc il ne risquait pas de venir voir le tableau. Il rentre d'Italie juste à temps. Je vous ai dit qu'il était venu voir le tableau le 8 janvier, il était rentré d'Italie le 7 janvier. Donc la première chose qu'il fait au matin du 8, une fois qu'il est à Paris, c'est de revenir, c'est d'aller place de la Sorbonne pour voir la grande œuvre de David. Alors il entre avec l'impératrice, avec un certain nombre de hauts dignitaires du Nouvel Empire. Enfin je dis Nouvel Empire, ça fait déjà un petit moment maintenant, puisqu'on est en 1808, ça fait 4 ans, 3 ans et demi qu'on a changé de régime. Napoléon passe une fois, deux fois devant le tableau et il livre son verdict. « Monsieur David, c'est bien. C'est très bien. Vous avez deviné toute ma pensée. Vous m'avez fait chevalier français. Je vous sais gré d'avoir transmis au siècle à venir la preuve d'affection que j'ai voulu donner à celle qui partage avec moi les peines du gouvernement. » Ça, voilà enfin admise l'idée du couronnement de Joséphine, qui est là, bien entendu, hein, qui assiste à la scène. Un nouveau silence, l'empereur passe, il lève son chapeau et il s'incline avec affectation, nous disent les commentateurs. « Monsieur David, dit-il d'une voix très élevée, je vous salue. » Vous imaginez la tête du peintre qui voit l'empereur Napoléon Ier s'incliner de façon très ostensible devant lui et dire « Je vous salue ». Il répond « Sire, je reçois votre salut au nom de tous les artistes, heureux d'être celui à qui vous daignez l'adresser ». Ça, c'est une façon presque ancienne manière, presque vieille cour, d'accueillir le compliment impérial. Aussitôt après, nous dit-on, le cortège se retira comme il était venu. Oui, l'art, c'est bien, le tableau du sacre est magnifique et Napoléon est content. Enfin, tout de même, quand on dirige un immense empire, on a autre chose à faire. Bonjour Thierry Lenz.
Bonjour Franck.
Je vous donne la parole dans un instant pour nous révéler tous les petits secrets que vous avez pour l'instant réservés à Anissa.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et c'est le tableau du sacre de Napoléon qui est au cœur de l'histoire cet après-midi sur Europe 1, parce qu'il a marqué l'histoire, mais parce qu'il cache beaucoup d'autres histoires aussi. Franck Ferrand, vous recevez Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon.
Et j'ai sous les yeux, grand ouvert, on va dire en plein cœur de l'ouvrage, votre album, qui s'appelle tout simplement Napoléon, chez Perrin, Thierry Lenz. Alors, vous avez reproduit ce tableau de David, hein, le couronnement de Napoléon, mais il est incomplètement reproduit, parce qu'il aurait fallu des volets, si je puis dire. Il est très très long, en vérité.
Oui. Hein. Et puis, pour vous dire toute la vérité, il y a toujours un problème sur les albums, c'est le milieu.
Mais c'est ça. Oui.
Donc, il ne faut pas que le tableau soit coupé, évidemment, à un endroit important du tableau. Donc,
Napoléon et Joséphine.
Voilà, il est un petit peu recadré, on va dire. Normalement, la pliure aurait dû tomber sur Napoléon, ce qui n'aurait pas été correct pour
un
album.
Alors, ce qu'il faut dire pour nos auditeurs, c'est qu'il y a le tableau original, qui se trouve aujourd'hui au Louvre, et qu'il y a une réplique qui a été faite par David lui-même pendant qu'il était en exil à Bruxelles, et qui a été rapatriée ensuite, qui se trouve dans les collections du château de Versailles, maintenant.
Oui, hein. Oui, oui. Cette réplique lui a été commandée, en fait, a été achetée par des Américains qui l'ont fait tourner ensuite aux États-Unis, hein, c'était un tableau
d'attraction,
à la fois tellement connu, tellement reproduit aussi en gravure, etc. Donc il a tourné et il a été racheté par la France, je crois, juste avant la Deuxième Guerre mondiale pour être placé au château de Versailles dans les salles Napoléon. Et il a évidemment quelques différences par rapport au tableau original. Par exemple, David a retiré du tableau des gens qu'il avait desservis sous le consulat et l'empire.
Sur la réplique, oui.
Il les a enlevés. Il a rajouté dans les tribunes des gens qu'il aimait bien, ses nouveaux voisins de Bruxelles, ses nouveaux amis, etc. Et disons qu'il l'a un petit peu allégé. Il y a un peu moins de personnages sur ce tableau que sur l'original.
David s'est représenté dans la tribune supérieure au-dessus de Madame Mère, en fait.
Oui, hein. Oui. C'est-à-dire à un endroit où techniquement...
Hyper stratégique. Stratégique,
mais il ne peut pas y être puisqu'il est à l'envers du tableau.
Exactement.
Mais évidemment il n'était pas à sa près sur ce tableau.
Mais vous dites il est à l'envers, il était là avec son atelier pour faire des croquis, c'est ça?
Alors il a fait des tas de croquis pendant la cérémonie. Il en a fait d'abord avant, il a reçu les gens pour faire leur portrait, c'est-à-dire que chaque personnage a son portrait sur le tableau, c'est d'où la durée de
c'est comme
de
une
réalisation.
Immense collection de portraits, hein,
ah oui il a bien sûr essayé à chaque fois de les mettre aussi un petit peu en valeur. On a par exemple l'esquisse qu'il a faite de Joséphine pendant la cérémonie. Elle a l'âge qu'elle a à ce moment-là, c'est-à-dire un peu plus de 40 ans. Elle a un double menton, etc. Une espèce de logiciel comme on en a aujourd'hui pour corriger les rides fait qu'elle a l'air d'une toute jeune femme sur le tableau.
Alors il a tout remanigancé. Ce que vous étiez en train de nous montrer tout à l'heure pendant l'interruption, Thierry Lenz, c'est qu'il y a toutes sortes de petits clins d'œil. Alors d'abord,
tous les personnages, tous, si on regarde, c'est ce qui donne peut-être la force à ce tableau, tous les personnages regardent dans un seul et même, dans une même direction. On pense que c'est vers Napoléon, c'est pas tout à fait ça.
Oui, tous les personnages regardent la couronne.
Voilà.
Et donc, on peut le vérifier.
C'est au cœur de la composition.
Un peu plus dur à la radio, mais on le vérifie parce qu'on connaît ce tableau. Tous ces personnages, sauf deux. Ces deux personnages se trouvent à peu près au centre de la toile. On a identifié quasiment tous les personnages sur le tableau, sauf un qui est justement un des deux qui regarde en fait le peintre.
Eux, ils sont juste au-dessus du profil incliné de l'impératrice.
Voilà.
Fait,
hein. Et donc, il y en a un qui a une perruque blanche, on ne sait pas qui c'est. Et puis l'autre, c'est un monsieur brun avec les cheveux un peu frisés qui fixe le peintre. C'est-à-dire le peintre, non pas David dans sa tribune, mais celui qui est en train de peindre le tableau. Et en fait, on sait qui c'est. Ce monsieur, c'est Estève, c'est le trésorier général de la couronne. C'est lui qui paye le tableau et donc
il
surveille son peintre. Voilà, et là c'est véritablement David l'a fait évidemment exprès pour chahuter
un
petit peu.
Vous trouvez pas que le personnage avec la perruque blanche juste à côté ressemble un peu à Charles Bonaparte, au père défunt de Napoléon?
Alors c'est possible, c'est une hypothèse qui n'a pas été creusée jusqu'à présent, mais je la retiens. Il faut dire que le grand, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez cité, le grand travail sur le tableau a été fait par Sylvain Lavessière à l'occasion d'une grande exposition en 2004. Il a publié un livre absolument passionnant sur ce tableau. Ce tableau mérite un livre de 300 pages.
Oui, largement,
Et ça a été le cas parce que il y a eu des tas d'essais. Vous parliez tout à l'heure de la position, de la posture de Napoléon se couronnant lui-même. David, dans un premier temps, a réalisé sur le tableau cette posture. D'ailleurs, aujourd'hui, comme le vernis est en train de vieillir, etc., quand on va au Louvre et qu'on regarde le tableau, on voit où était la tête de Napoléon au départ.
Et en fait, elle réapparaît petit à petit.
Et comme vous l'avez dit, c'est probablement, très probablement, Gérard qui a conseillé à Napoléon à David oui. de faire Napoléon couronnant Joséphine. Ça ressemble un peu au couronnement de Marie de Médicis par Rubens, etc. Ça, oui. Et donc, David s'est retrouvé. Il a redressé Napoléon. Il s'est retrouvé avec un trou derrière Napoléon. Et là, il a mis un personnage dont on s'est demandé pendant 150 ans qui il était. Et en fait, c'est Sylvain Lavessière qui a découvert ça. Dans les carnets de dessin de David, on a retrouvé l'esquisse d'un buste de Jules César qui se trouve au Louvre.
Incroyable.
Et c'est donc bien Jules César qui est placé juste là pour...
Oui, il est dans le dos de l'empereur, on peut dire. Il est entre Napoléon et le pape Pie VII.
Oui.
On a presque l'impression qu'il est l'esclave qui autrefois rappelait aux généraux triomphants qu'ils étaient mortels, comme s'il lui soufflait quelque chose.
Oui, hein. Le regard de Jules César, alors, est pas tout à fait sur la statue. Il est à cheval entre les deux.
Il
regarde l'empereur.
Comme s'il y avait transmission de l'empire de César à Napoléon.
Voilà.
César n'ayant jamais été empereur.
Avec ceci en plus qu'il n'y a pas eu de Brutus pour Napoléon et que lui, il est vraiment devenu monarque, en tout cas.
Il y avait des Brutus pour Napoléon, mais on peut dire que les lames de leurs poignards étaient toutes symboliques et toutes immatérielles. Alors, on pourrait multiplier les petits détails et les indiscrétions sur ce tableau. Alors, on a toujours dit, ça c'est vrai, que Madame n'était pas là, évidemment.
La mère de Napoléon
n'était pas présente. Bon, là, on l'a représentée, elle est plus que présente, on ne voit qu'elle. Et puis alors, la famille, les sœurs, les belles-sœurs, tout ça, c'est un vrai nid de guêpe.
Alors, c'est un nid de guêpe, et en même temps, David, et c'est bien la preuve que Napoléon s'est beaucoup intéressé à la réalisation du tableau, parce que chacun est placé à la place que lui assigne Napoléon dans son système. Par exemple, les sœurs de Napoléon, qui sont là debout au premier rang, elles se tiennent les mains, enfin, etc. En fait, pendant la cérémonie, elles ont soutenu la traîne de Joséphine. Mais vous connaissez l'histoire, il y a eu tout un scandale.
Il a fallu les menacer.
Alors on a changé les mots, c'est-à-dire qu'elle ne portait plus la traîne, elle la soutenait. Et dans le programme définitif, elle la pinçait. Donc voilà. Alors ce ne sont pas les sœurs de Napoléon là qui pincent ou qui soutiennent ou qui portent la traîne. Ce sont des dames d'honneur.
Oui.
Deuxième chose, l'enfant que vous avez signalé, le petit Napoléon Charles, qui est le fils donc d'Hortense de Beauharnais et de Louis Bonaparte.
Qui, je pense, est le seul enfant de toute la.
Alors il y a un enfant de cœur tout à fait à votre gauche.
Il y a deux enfants de cœur, le sabre de Beauharnais. Ah, puis il y a un autre chanteur également qui est très jeune. Mais
cet enfant-là, il se trouve placé devant, c'est-à-dire qu'il est devant la foule et il est vraiment mis en avant. Alors, cet enfant aurait dû, dans l'esprit de Napoléon, c'est lui qui devait succéder à Napoléon. Il était le fils d'un Bonaparte, d'une Beauharnais, comme si par substitution il avait été le fils de Napoléon Bonaparte et Joséphine dite de Beauharnais. Et donc cet enfant est placé là, et évidemment ça va créer, ça crée sur le tableau, mais dans la vie politique de l'époque, un scandale épouvantable entre Napoléon et ses frères. Et c'est pourquoi d'ailleurs, et là David ne peut pas avoir pris une telle décision sans que Napoléon l'y ait autorisé, c'est pourquoi les frères ont l'air d'être au premier plan, mais ils sont complètement rejetés sur la gauche du tableau.
Oui, ils sont très à l'arrière.
Ils sont mis de profil, ce qui veut dire aussi quelque chose. Et évidemment, ils vont être un peu furieux de tout ça. Notamment, alors, Joseph, qui est le plus intelligent de la fratrie, va avoir l'intelligence de ne pas en parler, de le garder pour lui. Mais Louis, par contre, qui lui est un peu fou, va écrire à David pour se plaindre.
C'est idiot, parce qu'évidemment, ça souligne la situation.
Voilà. Et donc, vous voyez, toute la politique est là dans ce d'ailleurs il y a déjà un aspect politique extraordinaire, c'est la présence d'une croix au milieu du tableau.
Oui, bien sûr.
Et puis la position du pape, vous disiez qu'il est très éclairé. Là aussi, il y a une anecdote.
Il est sur le grand camail du cardinal, ce qui fait qu'il ressort d'autant plus fort.
Il est. Et donc au départ, sur les premières esquisses de David, le pape avait les mains sur les genoux. Et donc Napoléon, en regardant cette esquisse, a dit « Bah écoutez, on l'a quand même pas fait venir d'aussi loin pour qu'il ne fasse rien. » Et donc finalement, David a décidé de lui faire une petite bénédiction qui est assez légère, assez discrète.
Vous savez, ce que je préfère, moi, sur ce tableau, c'est le portrait incroyable de Talleyrand. Je trouve que c'est peut-être le meilleur portrait qu'on ait de Talleyrand.
Ah oui, il a l'air transporté. Vous savez, toujours ses yeux mi-clos. Mais... on dirait vraiment que
on
c'est...
On a l'impression de les voir papillonner, les yeux.
Oui, ils sont... Oh, Cambacérès, c'est pas mal non plus, avec son menton démesuré, enfin, etc.
C'est loin de la caricature.
Oui. C'est un tableau à la fois, on peut le dire, magnifique, même si les gens n'aiment plus tellement le néoclassicisme, mais en même temps, historiquement, à condition de ne pas le prendre au premier degré, il a vraiment beaucoup, beaucoup d'intérêt.
Alors, évidemment, à partir du moment où Napoléon va divorcer de Joséphine et va réépouser une seconde épouse, hein, l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche, le tableau prend un gros coup de plomb dans l'aile.
Il y a même deux éléments. Il a déjà du plomb dans l'aile au moment où il est présenté, puisque le fameux Napoléon Charles,
bien sûr.
Charles est mort du croup, donc en 1807, donc plus d'héritier, enfin l'héritier redevient en quelque sorte Joseph Bonaparte. Et puis évidemment, 1809, c'est le divorce de Napoléon et Joséphine. Et là, on va rouler le tableau et puis on va le ranger puisque c'est Marie-Louise qui remplace Joséphine.
Allez hop, rideau.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et c'est à la loupe cet après-midi sur Europe 1 que nous regardons le tableau du sacre de Napoléon. Un tableau qui cache bien des anecdotes et bien des surprises. Franck Ferrand, vous recevez Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon. Et un tableau qui fait beaucoup réagir sur la page Facebook au cœur de l'histoire.
Tant et tant de choses à raconter sur ce tableau, nous dit J.O. Sophie dit, c'est derrière la grande histoire que se cache la petite. Lila nous dit, mon tableau favori, mon tableau préféré, dit Igor. Oh oui, mon tableau préféré, ajoute Laurence. Enfin bon, vous voyez que ce tableau continue de faire beaucoup parler. Napoléon a aimé ce tableau lors de la visite qu'il a rendue à l'atelier de David le 8 janvier 1808. Et on est frappé de la justesse de son jugement en matière artistique, Thierry Lenz.
Oui, alors la justesse de son jugement en matière artistique, on va dire plutôt néoclassique.
Oui, voilà.
C'est-à-dire que Napoléon... Non pas, il fait pas le choix du néoclassicisme.
En même temps, c'est l'époque du néoclassicisme. Mais
voilà, il est de son époque, il est un peu comme les gens de cette époque. On dit toujours qu'il se compare aux antiques. Ça va même plus loin que ça. Il se considère comme étant les antiques. Ils sont les successeurs des antiques, comme s'il y avait une parenthèse de 1000 ans. Par exemple, quand Napoléon dit « Je suis Charlemagne », il le dit pas pour faire un mot. Il le dit parce qu'il est convaincu d'être le successeur de Charlemagne. C'est assez, pour nous, c'est un peu difficile à comprendre, mais l'époque veut ça. Donc évidemment, tout ce qui touche à l'Antiquité, donc ce style qu'on appelle le néoclassicisme, va être pris en charge, on peut dire, à la fois par Napoléon lui-même, évidemment, mais par les services, l'espèce de mini-ministère de la culture qu'il a créé autour de Dominique Vivant-Denon, qui passe des commandes, qui vérifie que les commandes soient exécutées de telle ou telle façon, qui donne des directives aux architectes, aux peintres, voire même aux musiciens, etc., de telle sorte que cette époque soit aussi l'époque de ce type d'art. Ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas d'autres. Par exemple, Joséphine est très en pointe sur le style troubadour, qui est un style
oui. sur la peinture d'histoire, oui, c'est
au Moyen Âge,
le Richard, etc.
Voilà. Mais Napoléon, lui, c'est le néoclassicisme, et on va dire au départ un néoclassicisme dont le centre est David.
Oui. Hein,
lui-même étant le pape du néoclassicisme. Mais comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, David va avoir 60 ans à la fin de la réalisation du tableau du Sacre. Donc évidemment, il y a aussi la génération suivante qui va être portée, Gros, Gérard, Giraudet, Ingres dans une certaine mesure, Isabey, toute cette...
Isabey pour toute la peinture très...
Voilà.
Comment peut-on dire,
miniaturiste. Les miniatures. Alors, il y a quelque chose qu'on... ce tableau du Sacre, il a tellement impressionné les gens qu'il y a... Boilly a fait un tableau du public allant voir le tableau du Sacre, ce qui lui a permis de faire son petit tableau du Sacre à lui. Et ce qu'on sait moins, parce que l'œuvre est dans une collection privée, c'est que Isabey a réalisé une copie du tableau du Sacre, alors en plus petit format évidemment, mais c'est pour vous montrer que ce tableau était devenu comme une espèce de motif d'entraînement, enfin pour toute une génération de peintres.
Je me souviens à l'époque où je travaillais de près sur l'histoire du château de Versailles au 19e siècle, j'avais été très frappé par la grande justesse des avis de la main même de Napoléon en marge des projets que lui avaient fournis les architectes Trepsa et Gondouin. Il était d'une très grande justesse et je me disais, mais c'est incroyable qu'un homme qui par ailleurs est un chef de guerre, à la limite un administrateur, enfin que sais-je, mais c'est étonnant qu'il ait ce jugement architectural très sûr. Et ça m'avait amené à m'intéresser à ses jugements en matière de sculpture notamment, et la critique qu'il fait de sa fameuse statue par Canova, à mon avis, est un modèle de critique esthétique et artistique. Est-ce que Napoléon avait cette fibre artistique, lui qui s'était voulu romancier dans sa jeunesse?
C'est tout le problème avec, on va dire, un génie comme Napoléon. Il faut quand même, simplement, faut pas, bien sûr, tout ce qu'il réalise est étonnant, mais c'est une personnalité hors du commun. Ça n'est ni vous ni moi, hélas, ni d'autres. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas 36 Napoléons, il y en a 4 ou 5 qui sont ces personnages à la fois absolus dans le savoir, dans l'envie d'action, détestables par certains côtés, aimables par d'autres, et ainsi de suite. Alors Napoléon, lui, on ne sait pas trop où il a formé son goût, parce qu'il y avait très peu d'œuvres d'art à la maison Bonaparte. Il n'est pas réputé avoir passé du temps dans les ateliers de peinture ou dans les ateliers de sculpture pendant sa jeunesse. Simplement, ce qu'il y a, c'est que il a une conception globale, on va dire presque globale du monde. Ce serait un peu exagéré, mais c'est un peu ça que je veux dire, et qui fait que il va adapter chacun des domaines à cette conception. Et je vais dire, il est tellement rigoureux, tellement rationnel dans son expression que sans doute il s'occupe correctement de sculpture, mais il va aussi s'occuper correctement de musique, ce qui est très étonnant. Il chantait faux.
Ouais, ouais.
Bon, il avait un peu appris le solfège dans sa jeunesse, mais il s'est aussi beaucoup occupé de musique. On a une lettre alors plutôt amusante de Napoléon, mais qui se trouvant en Allemagne entend un opéra de Mozart, et il y a un petit paragraphe de critique, quoi, en disant « Ah, c'est un opéra allemand, même si ça parle en italien, et ainsi de suite. » Mais incroyable. Finalement, c'est pas trop
mais
mauvais.
Mais il se mêle de littérature, alors ça on le sait, à quel degré, bien entendu. Oui. Il se mêle un peu de tout, même des arts décoratifs, avec des gens comme Percier et Fontaine,
bien sûr.
Oui,
oui, oui. Alors il a choisi, il a trouvé en Percier et Fontaine, alors surtout Fontaine, mais Percier, bien sûr, doit y être associé, il a trouvé des gens avec qui on se comprend. Au travers de ce néoclassicisme, il n'a pas à les reprendre, il n'a pas à leur donner d'explications, ils se comprennent sans se parler. Et ce que font, par exemple, le bout d'essai de Percier Fontaine, c'est-à-dire Malmaison, qui est encore aujourd'hui très largement visible dans la partie Napoléon du château de Malmaison, est absolument ce que veut Napoléon. c'est-à-dire le néoclassicisme, un aspect, par exemple, la salle du conseil des ministres de Malmaison, ou la salle du conseil plutôt, ressemble à une tente militaire. Il y a tous les attributs de l'Empire romain dans cette pièce.
Et c'est peut-être cette extraordinaire cohérence, homogénéité sur une si courte période qui continue de fasciner aujourd'hui encore. Et je signale que dès demain, nous serons le 9 décembre, demain, à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne, à l'hôtel de Beauharnais, s'il vous plaît, seront remis les prix de la Fondation Napoléon. Ce n'est pas Napoléon qui les remet, mais c'est la princesse Napoléon, si
oui,
je ne m'abuse,
oui,
Thierry.
Oui, c'est en principe donc la princesse Napoléon qui remet ses prix, donc à trois historiens chevronnés. Mais aussi, et ça c'est peut-être important de le dire, dans l'époque que nous traversons, il faut se tourner vers l'apprentissage, la transmission de l'histoire napoléonienne. Nous donnons aussi chaque année 7 bourses à des étudiants de doctorat. Et donc demain soir, chacun recevra à la fois la médaille, mais aussi ce qui va avec, en général avec les prix.
Merci beaucoup Thierry Lenz. Et je signale dans la très abondante bibliographie dont vous êtes l'auteur, je signale cet album Napoléon qui est publié chez Perrin.
Et dans un instant, Franck, vous nous donnerez les origines du mot péplum.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Alors aujourd'hui, Franck, c'est une question posée par Samia sur le site europe1.fr et elle vous demande, Samia, quelle est l'origine du mot péplum ?
Alors, moi j'adore les péplums d'abord. Je sais pas si vous aimez les péplums.
J'aime bien.
Ces films souvent de série B, pour pas dire C, qu'on tournait dans les années 50 sur toutes sortes de sujets antiques. Alors, il y a aussi des chefs-d'œuvre, hein, bien entendu. On cite toujours le célèbre Spartacus achevé par Stanley Kubrick. Oui. Mais enfin, et puis il y a Ben-Hur, enfin, etc. Alors, toute la série des massistes, nous dit Thierry Lenz. Bref, il y en avait beaucoup. Alors, d'où ça vient ce mot péplum ? Eh bien, ça vient d'une pièce d'étoffe qui servait de vêtement aux femmes de l'Antiquité. C'était ce qu'on appelle nous un péplum. D'ailleurs, il serait plus juste de dire un péplos pour être tout à fait juste. C'était donc cette espèce de tunique courte que portaient les femmes. Alors comment est-ce que ça en est venu à désigner un film ? Eh bien, probablement que dans les années à l'âge d'or de Cinecittà, hein, justement dans ces années 50, comme les personnages étaient vêtus à l'antique, on s'est mis un peu par dérision à appeler ce genre de film un péplum. Et c'est resté. Et ce qui est drôle, c'est qu'avec le temps, le péplum a gagné petit à petit ses lettres de noblesse. Tiens, ça me donne envie d'en revoir quelques-uns.